Loué soit le Seigneur. Remercions le Seigneur. Dans les trois messages précédents, j'ai donné une certaine introduction qui touchait, qui concernait quelque chose qui est de notre côté, qui relève de nous, et que nous pouvons expérimenter pour coopérer avec lui, afin qu'il puisse nous sauver dans la vie et entraîner notre croissance dans la vie jusqu'à la maturité. Dans le message 1, nous nous sommes concentrés sur Romains 8, 28, avec l'esprit intérieur qui demeure en nous et qui prie pour nous. Et ensuite, en réponse à la prière de l'esprit, le Dieu souverain amène toute chose à coopérer pour le bien. Et ce bien, c'est être rendu conforme à l'image de Christ, le Fils premier-né. Ensuite, dans le second message, dans le deuxième message, nous avons parlé de tourner notre cœur vers le Seigneur, afin que le voile soit enlevé. Et donc, si vous avez oublié de tourner votre cœur, ce n'est pas trop tard. Et si vous voulez le faire une nouvelle fois, fraîchement, vous pouvez lui dire « Seigneur, je tourne mon cœur vers toi juste maintenant. » Et alors, le voile est ôté. Et nous pouvons tous, d'un visage dévoilé, contempler et refléter la gloire du Seigneur. Et nous avons vu que cette gloire était la gloire qui émane de son visage. Et en contemplant cela, même un court instant, cela active le processus de transformation en nous. Ensuite, hier soir, nous avons parlé des deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et nous prions le Seigneur afin de tous avoir une compréhension claire et afin que de plus en plus, Seigneur, nous puissions vivre par l'arbre de la vie. Mais notre Seigneur merveilleux, souvent, garde le meilleur pour la fin. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin de notre conférence si précieuse. Ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. Et donc, où allons-nous maintenant être? Où en sommes-nous maintenant? Nous sommes prêts maintenant. Dans les messages précédents, de plus en plus, nous avons pu ouvrir notre cœur au Seigneur en l'aimant. Lui avons ouvert notre être afin de recevoir sa dispensation. Mais maintenant, le Seigneur veut guider, conduire chacun de nous jusque dans son cœur. Afin que nous puissions vraiment savoir ce qu'il y a dans le cœur du Dieu souverain. De plus, nous aurons aussi une vue renouvelée, complète, de la Bible comme un tout. Et donc, les mots-clés pour ce message sont les suivants. Romance divine. Amen. Le jour viendra. Alors que le Seigneur nous paie, et bien qu'il y ait près de 800 personnes ici, il prend soin de chaque brebis personnellement, tout en prenant soin de l'ensemble du troupeau. Et donc, il est là. Nous ne pouvons pas le voir, mais il est ici. Et nous l'aimons. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui. Il est le berger de nos âmes et il est ici, il est présent, il est avec nous. Sur quoi est-ce que je me base pour parler de la romance divine? Cette romance trouve sa source dans le cœur de Dieu. Eh bien, tout ce que j'ai appris, pratiquement tout ce que j'ai appris, provient du ministère de l'âge et du ministre de l'âge. Et nous n'exaltons personne, mais nous devons être honnêtes. Nous devons témoigner que Watchmani et Witness Lee sont les ministres de l'âge et qu'ils ont édifié leur ministère sur tous ceux qui étaient avant eux. En 1974, le frère Lee a tenu la première formation semi-annuelle sur les études de vie. À ce moment-là, il a commencé les formations semi-annuelles sur les études de vie. Et ces formations duraient 10 jours avec une trentaine de messages. Et il a commencé par l'Épître aux Romains. Et j'espère qu'il y a un moyen pour que chacun d'entre vous puisse avoir accès au message 1 de l'étude de vie de Romains. Et si ce message n'est pas accessible, n'est pas disponible dans votre langue, j'espère que quelqu'un pourra vous le traduire dans une autre langue ou pourra vous le traduire. Ce message aura un impact, un effet conséquent sur toute votre vie. Et donc, lorsque nous avons entendu ce message, il y a bien des années, lors de cette formation, nous avons été émerveillés. Et frère Lee a dit que nous voulons comprendre l'épître aux Romains, mais il nous faut comprendre cette épître dans le contexte de toute de la Bible dans sa totalité. Et il a poursuivi en disant: la Bible est une romance, la romance d'un couple universel. Et peut-être que vous pourriez considérer la chose suivante, pas rapidement, brièvement, mais vraiment en méditant, en réfléchissant. Lorsque vous lisez la Bible, votre lecture de la Bible. Il s'agit de quelque chose de fondamental, de basique, mais c'est quelque chose dont l'ennemi essaye de nous distraire en subtilisant notre temps, en occupant notre temps dans votre communion personnelle avec le Seigneur. Dites-lui: Seigneur, je veux lire toute la Bible. Seigneur, comment est-ce que je peux pratiquement, concrètement lire la parole? Il me faut être à mon poste, à mon travail, à 6h30. Ensuite, le soir, je rentre et il y a tant de besoins dans ma famille. Et le Seigneur, si vous lui demandez, il va vous indiquer, peut-être, il faut que tu lises pendant un an, 3 chapitres dans l'Ancien Testament, 1 chapitre dans le Nouveau. Quoi qu'il en soit, je vous implore, lisez la Bible tous les jours. Et donc, frère Lee continue. Et il a dit que ce livre était le livre d'une romance. Et ce couple universel est bien sûr Dieu en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et l'épouse est le peuple racheté de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous avons une typologie de cela, le peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité de cette image, de ce type. Et maintenant, alors que je parle de lire la Bible, considérons comment la lire. Et je remercie profondément le Seigneur pour sa formation, son perfectionnement, sa discipline dans mon apprentissage. Et je suis toujours en train d'apprendre. Je continue d'apprendre. Et certainement que nous continuerons à apprendre jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Et donc j'ai pris conscience que la Bible était la parole écrite de Dieu et inspirée par Dieu. Mais Christ lui-même est la parole vivante de Dieu. Et j'aimerais tout simplement vous recommander, à chaque fois que vous avez quelques minutes pour lire la parole, vous êtes là, assis, la Bible est ouverte devant vous, ayez cette prise de conscience que vous lisez ces paroles avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, et que vous êtes en train de le toucher alors que vous lisez. Une telle attitude va révolutionner votre lecture de la Bible. Même si vous êtes une mère très occupée, avec une petite pause café dans la journée, très très courte, vous avez quelques minutes, peut-être vous pouvez vous dire, je vais racheter ces quelques minutes. Et vous lisez quelques lignes dans la présence du Seigneur. Il est celui dont les paroles sont esprit et sont vie. Et alors que vous lisez la Bible, vous n'êtes pas en train de l'étudier. Et peut-être que vous n'êtes pas forcément non plus en train de prier, lire, vous lisez. Mais le Seigneur est là et il transmet sa vie en vous. Revenons maintenant à ce sujet de la romance divine. Si vous lisez ces 3-4 pages, je dirais même si vous lisez plusieurs fois, je parle donc du message 1 de l'étude de vie de Romains, vous aurez cette vision, ce point de vue qui est unique au recouvrement du Seigneur grâce à ce que ses frères fidèles ont recouvré. La Bible est le récit d'une romance divine. Mais c'est vraiment dans la Genèse, chapitre 2, que nous avons l'image. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a besoin d'un complément. Et l'homme et la femme typifient Christ et l'Église. Et plus tard, notre cher frère, l'apôtre Jean, était sur l'île de Patmos et il était en esprit alors que la révélation finale lui est arrivée. Et lorsque nous atteignons le chapitre 21, le messager envoyé par Dieu lui dit, « Viens et je te montrerai. » Et il a vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, comme une épouse préparée pour son époux. Cela doit être écrit dans votre intelligence. La nouvelle Jérusalem n'est pas un lieu. La nouvelle Jérusalem n'est pas une cité physique. La nouvelle Jérusalem est une personne qui est aussi le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il y a ce mot « ville, cité ». Puis dans le même chapitre, l'ange, le messager, dit ceci à Jean. Au verset 9 et 10, il lui dit « Viens, et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Et donc il est emporté, enlevé en esprit sur une haute montagne. Et que voit-il ? Il voit la cité sainte, Nouvelle Jérusalem. Et la première caractéristique qui est mentionnée, c'est que cette ville a la gloire de Dieu. Et donc la révélation ultime de la Bible concerne la mariée et le marié. De Genèse 2 à Apocalypse 21. Voilà le début, le commencement et la fin de cette histoire d'amour. Some of you are thinking, Peut-être que certains parmi vous se demandent sérieusement, comment puis-je entrer dans cette réalité? Ce n'est pas une idée quelconque, une idée, mais ce que je lis dans l'étude de vie, comment puis-je l'expérimenter? Laissez-moi vous dire une façon merveilleuse. Et nous voyons cela dans un livre de la Bible assez court, 8 chapitres, dans l'Ancien Testament. Quel est ce livre? Le Cantique des Cantiques. Et tout ce qu'il y a, tout ce que ce livre contient, concerne cette relation d'amour, d'un mariage merveilleux. Et ce livre nous a été ouvert il y a bien longtemps, dans les années 1930. Le frère Ni était dans un hôtel en Chine, auprès d'un grand lac. Et il était là avec peut-être une douzaine de saints, et il a ouvert le livre du Cantique des Cantiques. Et ensuite, dans l'étude de vie et l'étude de cristallisation de Frère Lee, notre frère a continué à ouvrir ce livre. Laissez-moi vous lire les deux premiers versets de ce livre. Le Cantique des Cantiques, qui est de Salomon. Voilà comment cela commence. Et laissez-moi dire aux frères, peut-être aux jeunes frères parmi nous, il est dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Et donc, cette romance divine commence avec un baiser. Et si on lit les notes de bas de page, il est dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Et donc, il ne s'agit pas d'un petit bisou sur la joue. C'est un baiser de sa bouche sur sa bouche. Il s'agit d'un baiser intime, d'un contact des plus intimes, dans une relation tout à fait adéquate. Et le jour viendra, et peut-être que vous serez surpris, cela jaillira de vous, et ce verset vous viendra, et vous direz qu'il me baise, des baisers de sa bouche. Et j'espère que c'est adéquat de mentionner le nom d'un collaborateur fidèle que nous apprécions. C'est un frère qui a passé 70 ans, qui a été fidèle et qui était un footballeur professionnel, qui était un homme costaud. Et lui prenait la conduite, il était le premier à déclarer qu'il me baise des baisers de ta bouche, parce que dans sa relation avec le Seigneur était son époux. Et il était l'épouse. Frère, n'êtes-vous pas satisfait que le Seigneur vous a fait homme? Eh bien, dans la nouvelle création, permettez-moi de vous dire que nous ferons tous partie de la mariée corporative. Et je pense qu'il nous faut nous habituer à cette idée, petit à petit. Et donc, voilà comment ce livre commence. Et maintenant, j'ai une suggestion. Ce n'est qu'une suggestion. Ne l'interprétez pas comme une exigence. Ce n'est pas une formation. Il n'y a pas d'exigence. Ce n'est qu'une suggestion. Cela serait vraiment très utile. Cela serait très utile pour vous de lire le Cantique des Cantiques, de lire ce livre une fois par mois. C'est 8 chapitres, une fois par mois. Vous pouvez le faire en 8 jours. un chapitre par jour. Et peut-être que vous aurez le sentiment de lire certaines des notes. Et cela va vous approvisionner d'une manière tout à fait particulière. Et donc, nous n'avons pas le temps maintenant, et je n'ai pas la conduite maintenant de parcourir tous les détails. Et je vous ai déjà mentionné que celle qui cherche le Seigneur manifeste son amour d'une manière particulière. Et le Seigneur lui répond et lui dit, « Tu es comme une jument. » Mais quand l'amour est là, et quand l'amour parle et exprime l'amour, alors tout peut être dit. Et la personne qui reçoit ces paroles les recevra avec joie. Elle ne s'est pas offusquée de s'entendre être appelée jument. Et par les noms dont il qualifie la jeune fille, cela indique le progrès, la progression. Et le Seigneur pourra peut-être vous indiquer, tu n'es plus au chapitre 1. Maintenant, tu es à la fin du chapitre 2. Et le Christ ressuscité t'a amené jusque dans le creux du précipice. Et plus loin, le Seigneur dit, viens t'asseoir avec moi dans les lieux célestes. Et alors il dit, tu es belle. Tu es comme une armée terrifiante pour l'ennemi. Et enfin, au chapitre 6, il dit, « Oh, ma Shulamite, je t'aime, Shulamite. Je t'ai rendu tel que moi, en vie et en nature, et en constitution, en fonction, en expression. Mais tu sais que je suis aussi Dieu, et tu ne l'es pas, mais tu es maintenant mon complément. » Puis, au chapitre 7, elle commence à servir avec lui. Elle a le premier amour et les premières œuvres qui trouvent leur source dans le premier amour et qui expriment cet amour. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 8, et je n'ai pas besoin de lire. Je sais que au verset 1, cette personne qui était telle une jument, qui est devenue ensuite un lys, elle est maintenant mûre. Elle est devenue la Shulamite. Elle est fidèle dans le service avec son Seigneur. Et au chapitre 8, nous voyons qu'elle désire un corps transfiguré. Car elle dit, quand je serai hors de la chair, je t'embrasserai. Si je te trouvais dehors, je t'embrasserai. Et donc, cette romance divine commence avec un baiser et se parachève par un baiser. Ok, et donc maintenant, sur le chemin du retour après cette conférence, n'essayez pas de vous demander de découvrir comment est-ce que je peux embrasser une personne invisible. Lisez simplement les versets, lisez les notes de bas de page et le Seigneur va vous entraîner dans cette romance divine. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il va vous emmener jusque dans son cœur. Je suis tellement reconnaissant que dans l'étude de vie d'Éphésiens, au chapitre 1, lorsqu'il est question du bon plaisir de Dieu, je suis si heureux de l'interprétation qui nous est donnée. Il s'agit du désir du cœur de Dieu. Et sous la protection, la couverture du Seigneur, toute la gloire lui revient. Et il y a là les fruits, ce sont là les fruits, le développement, le résultat. La motivation de ma vie dans le Seigneur est le désir du cœur de Dieu. Et j'aimerais témoigner, moi, en tant que frère qui est dans le processus, en tant que frère qui mûrit, mais pas en tant que frère prêt à être enlevé, j'aimerais témoigner que le désir du cœur de Dieu est maintenant le désir de mon cœur. Et j'espère que cela conviendra à une chère personne ici, ma femme et moi, lorsque nous avons préparé notre cérémonie de noces, nous n'avions aucune idée quoi faire. Et il y avait plus de 1000 personnes et nous n'avions jamais été à une telle fête, une telle cérémonie. Mais notre sentiment était notre union, notre mariage est pour la romance divine du Seigneur. Et donc il nous a conduits et nous avons chanté, si on peut appeler ça chanter, parce que, et il ne s'agit pas ici d'une pseudo-humilité, je ne prétends pas être humble, mais j'aimerais tout simplement vous dire, et je pense que le Seigneur sera d'accord avec moi. Ron Kangas est un cas difficile. Intérieurement, c'est un cas difficile, mais il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Dieu. Et ce qu'il a voulu toucher en moi, d'une manière très précise, ce qu'il a voulu ouvrir et qui nécessitait de l'amour et un coup sérieux, c'était mon cœur. Et donc, je répète, je ne prétends pas, nous sommes vraiment en train. Et alors que je suis debout devant vous et alors que je partage tout cela, d'une certaine manière, je ne sais pas comment ça marche, mais alors que je m'adresse à toute la congrégation, en fait, je vous parle à vous, au singulier, parce que tel est le cœur du Seigneur. Il se soucie de vous. Il vous aime. Il vous a amené ici. Et donc, maintenant, nous pouvons lire le plan parce que l'introduction a été donnée. Et cette introduction est très liée, est liée de près avec le sujet du message 4. Le Seigneur attend que nous croissions dans la vie jusqu'à maturité, afin que la mariée soit prête. Voilà ce qui est écrit. Et dans quelques minutes, lorsque nous serons au début du grand point 2, je partagerai cela autant que possible. Qu'est-ce que cela veut dire que de se préparer? Et quand je dis se préparer, cela concerne notre responsabilité. Nous devons prier, nous devons lire la Bible, nous devons nous consacrer, etc. Et donc le grand point 1 s'appuie principalement sur des versets dans Jacques. Et dans son épître, Jacques utilise l'illustration. Dans son épître, Jacques utilise l'illustration d'un laboureur qui attend ardemment le précieux fruit de la terre. Et donc vous pouvez lire au chapitre 5, le verset 7. Et je n'ai jamais été un fermier, un laboureur. Mais pendant quelques semaines, ici et là, je passais du temps dans la ferme de mon grand-père. La vie, c'est se lever tôt le matin, travailler, se coucher tôt. Et donc, il y a donc ce fermier, ce laboureur, qui attend ardemment le fruit de la terre. Le Seigneur Jésus est en fait le vrai laboureur, l'unique laboureur. alors que nous attendons ardemment la venue du Seigneur, lui, le vrai laboureur. Il attend patiemment notre maturité dans la vie comme les prémices et la moisson du champ. Et donc ici, il y a deux attentes. Et je pense que chacun de vous peut faire écho à cela. Au cours des 2-3 dernières années, n'avez-vous jamais prié, que ce soit personnellement ou avec 2 ou 3 autres personnes, n'avez-vous jamais prié, « Seigneur, nous voulons que tu viennes. Seigneur, nous attendons ardemment que tu viennes. Ne serait-ce pas merveilleux si le Seigneur nous enlevait tous maintenant ? Ce serait merveilleux. Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas, oh non, où est mon iPad ? Il ne faut pas regarder en arrière. Rappelez-vous de la femme de Lot. Mais de son côté, si vous consultez l'étude de vie, les deux messages dans l'étude de vie de Jean, le Seigneur attend et il n'est pas encore venu parce qu'il n'y a pas encore eu de maturité significative dans son peuple. Et donc, puissions-nous, dans la grâce du Seigneur, être gouvernés par cette vision pour que, dans son salut de vie, pour que nous puissions collaborer, coopérer partout sur la terre avec lui pour atteindre la maturité. Et alors nous pourrons prier, Seigneur, nous attendons toujours que tu viennes. Et le Seigneur, peut-être, finalement, dira, je n'attends plus, j'arrive, je viens maintenant. Le point C, si nous prions, Seigneur, reviens vite. Le Seigneur pourrait répondre, pendant que vous attendez mon retour, j'attends votre maturité. Seule votre maturité peut hâter mon retour. N'est-ce pas là un point précieux? Un point que nous avons appris de la part d'un petit homme de Chifu en Chine. Le Seigneur a envoyé la Bible, il a envoyé l'Évangile dans ces contrées et ensuite il a envoyé le ministère de l'âge ici dans ce pays. Et le Seigneur dit donc, vous attendez mon retour. Et un tel point illumine ma façon d'attendre le retour du Seigneur. Le Seigneur pourrait dire, cela fait 2000 ans que j'attends ou 2 jours. 2 jours selon lui, mais maintenant nous comprenons. Il faut qu'il y ait une mariée mature, une mariée mûre, une mariée prête. Et nous avons l'occasion et le privilège de faire partie, de pouvoir faire partie de cette mariée collective. Le point D, cela nous aide beaucoup de prendre conscience que si nous attendons le retour du Seigneur avec sérieux, il nous faudra grandir dans la vie jusqu'à atteindre la maturité. Il y a différentes raisons, des raisons personnelles ou collectives. Mais la plus importante est la suivante. Le Seigneur désire une mariée, une épouse. Il veut revenir en tant que le marié qui vient pour son épouse. Et Seigneur, je veux que le restant de mes jours sur la terre soit une préparation et même soit une participation à ta cérémonie de mariage. Extérieurement, c'est comme les deux hommes et les deux femmes dont j'ai parlé hier soir. Extérieurement, nous vivons, nous continuons de vivre une vie pratique, une vie humaine, quel que soit l'âge que nous avons, quelles que soient les responsabilités que nous avons, mais intérieurement, voilà ce pourquoi nous sommes vraiment là. Et voilà quelle est notre aspiration. Nous arrivons maintenant à cette deuxième section. La mariée mûre est le but du recouvrement du Seigneur. Quelqu'un pourrait vous demander quel est le but. Vous utilisez ce terme « recouvrement », le recouvrement du Seigneur. Qu'est-ce que le recouvrement du Seigneur? Eh bien, ce terme est tout inclusif, il inclut beaucoup de choses. Mais le but est la mariée mûre. La mariée mûre qui se prépare. Et alors que je vous lis les sous-points, il y a certains points qui seront mentionnés. Mais j'aimerais prendre quelques minutes pour vous donner une vue d'ensemble. Quelles sont les caractéristiques d'une mariée mûre? Les premières, nous en avons déjà parlé, c'est sa maturité. Une maturité non seulement physique, comme une petite fille devient une femme d'âge mûr, mais bien plus, une maturité dans la personnalité, la façon de parler, la façon de vivre. Et donc, je pense que cela est clair. La caractéristique suivante est celle d'être édifié dans le corps collectif de Christ. Aucune personne individualiste ne sera mûre. En un sens, oui, nous resterons des personnes individuelles, mais dans notre attitude, nous n'aurons pas une telle attitude de dire que j'aille ou que je n'aille pas à telle ou telle réunion, importe peu. Cela fait 56 ans que je suis dans le recouvrement du Seigneur et je ne sais pas où je serais si j'avais passé ces 56 ans dans la dénomination presbytérienne. Quel genre de personne serais-je aujourd'hui, même si j'avais publié des livres? Mais oui, je suis tellement heureux de simplement être un frère dans l'église locale où je vis. Et donc, être édifié ensemble collectivement. Rappelez-vous, il s'agit de la prophétie que Frère Lee a qualifiée de la plus grande prophétie de la Bible. Je bâtirai mon église. Et donc l'édification de l'église correspond à la mariée édifiée. Et chacun de nous, d'une part, nous avons des attributs qui tendent à être édifiés et nous avons aussi des attributs qui sont plutôt particuliers, singuliers. Et donc, encore une fois, le Seigneur va... Toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que dans l'éternité, nous serons toujours tous reconnaissables en tant que les fils glorifiés de Dieu. Et partout sur la terre, nous nous reconnaîtrons les uns les autres lors du festin des noces. Et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous nous reconnaîtrons les uns les autres, mais nous devons aussi prendre conscience que nous sommes, que nous formons cette mariée collective, la mariée du Dieu rédempteur. Et il s'agit là du but de la création de l'univers, c'est d'avoir cette relation, ce couple. Et j'aimerais maintenant mentionner quelque chose brièvement. Il est dit qu'elle sera belle. Et il y a des messages, des versets qui concernent cela, qui concernent le fait que le Seigneur est en train de nous embellir avec lui-même, simplement en s'œuvrant en nous. mais deux autres points. Le premier, la robe de mariée, le vêtement. Je me souviens que c'est vraiment très important pour toute sœur qui se marie de trouver sa robe. Et je ne parle pas de cela. C'est quelque chose qui concerne les sœurs. Je ne suis pas en train de toucher cela. Mais il nous est dit que la robe de mariée, de la mariée, se compose et est constituée des justices, des actes justes. Pas de la justice, non, des actes justes au pluriel. Et c'est quelque chose de très important. Car, que vous en soyez conscient ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous êtes en train de broder, de préparer votre propre robe. Et il s'agit des actes justes au pluriel. Quels sont ces actes justes? Nous savons que Christ lui-même est notre justice, de deux manières. Comme le fils prodigue, lorsqu'il est revenu à la maison de son père, il avait faim, mais le père l'a revêtu d'une robe qui représente Christ comme la justice qui nous recouvre, qui nous couvre. Et donc, c'est ce qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Mais ensuite, nous lisons dans Philippiens chapitre 3, il est question de la justice subjective, personnelle. Christ s'œuvre dans notre être. Et maintenant, j'espère que vous me suivrez attentivement et j'espère être suffisamment clair. Dans 2 Corinthiens, il est question du ministère de la Nouvelle Alliance, que l'on appelle le ministère de l'Esprit et le ministère de la justice. Et donc, de quelle justice au pluriel, de quel acte juste s'agit-il? Nous permettons à l'Esprit qui donne la vie de s'écouler au travers de nous, et nous vivons par cet Esprit, dans cet Esprit. Et alors, spontanément, sans aucun effort, toutes les choses dans notre vie quotidienne que nous faisons, que nous disons d'une manière juste, cela devient des actes, des réactions, quoi que ce soit. Et ces actes justes sont l'expression, dans notre vie quotidienne, de l'Esprit qui demeure en nous. Et donc, tous les croyants posséderont la première robe, la rédemption, le salut rédempteur. Mais un petit groupe auront la deuxième robe qui se compose des actes justes. Il y a dans la chrétienté beaucoup d'autres interprétations, mais ne nous en occupons pas. Il nous faut simplement prendre conscience que nous sommes aujourd'hui en train de préparer, de broder ce deuxième vêtement, cette deuxième robe. Donc cela concerne notre vie de tous les jours, dans toutes les choses que nous faisons. Et une chose pour moi qui m'attriste profondément, c'est d'avoir l'impression, et ce n'est pas un jugement, c'est juste une impression. Il y a ici un tel, qu'ils en soient conscients eux-mêmes ou pas, ils sont en train de vivre deux vies. Une vie n'est pas une vie de prétention, c'est une vie chrétienne dans la vie d'église avec les saints. Et ensuite, ces saints peut-être passent bien plus de temps à leur travail et ils sont dans un environnement pas facile avec beaucoup de gens mondains. Mais un jour, le Seigneur viendra toucher cela. Je ne veux pas que tu aies deux vies différentes. J'aimerais que tu apprennes comme cet homme dans le champ qui est enlevé. Je veux que tu apprennes comment avoir une vie humaine, pratique, avec tes responsabilités, sans que ta vie, en aucun cas, ne viole, n'enfreigne les actes justes de Dieu. Et il y aura certaines choses sur ton lieu de travail dont tu ne pourras pas parler. Certaines blagues que tu ne pourras simplement pas faire ou auxquelles tu ne pourras pas rigoler. Il s'agit d'illustrations insignifiantes, minimes. Et le dernier point que nous aborderons aussi tout à l'heure, nous voyons que la mariée est aussi un guerrier. Pas dans le sens où elle est tout le temps en conflit, mais il s'agit d'un besoin immense que le Seigneur a. Et présentement, je n'ai aucune idée de comment le Seigneur va nous perfectionner à cet égard. Mais je ne m'en soucie pas, le Seigneur est le Seigneur. Mais ce que je sais, pour ce que j'en sais aujourd'hui, et je n'en sais qu'un peu, c'est que le Seigneur va nous édifier. Plus nous préparons notre robe de mariage, plus alors nous serons capables de passer d'Éphésiens 5 à Éphésiens 6, sans aucun effort. Et la séquence est tout à fait intéressante. Nous avons le corps au chapitre 4, nous avons l'épouse au chapitre 5 et nous avons l'armée au chapitre 6 d'Éphésiens. Et donc notre but n'est pas d'être l'armée par nous-mêmes, individuellement. Et je ne sais pas comment le Seigneur le fera, que cela soit une conférence, que cela soit du temps, que ce soit des expériences. Disons simplement que peut-être que le Seigneur nous a conduits à parcourir toute la Bible avec des études de cristallisation et nous ne savons pas ce que nous ferons dans deux mois, lorsque nous aurons terminé toutes ces études. Mais si nous devions avoir toute une conférence sur les faits qui a pour sujet la mariée comme le guerrier, c'est quelque chose qui fera trembler de crainte l'ennemi. Car la mariée car le Seigneur se battra avec l'Antichrist et ses armées. Mais il ne se battra pas seul. Il le fera avec son armée nuptiale. Et à ce moment-là, la mariée de Christ, après la fête, lorsque la bataille commencera, elle ne va pas dire « Oh, il faut que je change de robe, je suis dans ma robe de mariée, il faut que j'aille me changer. » Elle ne dira pas cela, car le Seigneur lui dira « Tu es prête ». Allons-y, car le Seigneur veut une épouse qui est aussi une guerrière. Une épouse qui est une guerrière. Et donc nous, étant motivés par cette romance divine, par notre amour envers le Seigneur et envers les uns les autres, qui n'est qu'une réponse à son amour pour nous, cet amour va nous conduire dans tous ces aspects, dans tous ces développements. Et alors il arrivera le point où le Seigneur dira, comme dans le Cantique des Cantiques, « Allons-y, tu es prête, ma bien-aimée. » Au chapitre 6, il lui dit, « Tu es aussi belle que Tirsa, aussi terrible que Jérusalem, aussi terrifiante qu'une armée pour l'ennemi. » Et donc, ne priez pas, Seigneur, rends-moi terrifiant pour l'ennemi aujourd'hui. Non. Ayez simplement confiance que alors que vous êtes en train de vous réjouir du Seigneur, tous ces aspects sont en train de prendre forme en vous. Et je suis plein d'assurance que dans un futur proche, le Seigneur obtiendra cette armée sur la terre. Et que dans les réunions de prière de l'Église, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, car c'est dans le cœur du Seigneur, que les réunions de prière de l'Église ne seront pas que des réunions formelles, mais qu'il y aura au moins, pendant un certain temps de la réunion, des prières qui ont de la valeur dans le combat spirituel. Car sans les prières, le Seigneur n'agira pas. Même concernant sa volonté et son désir, il n'agira pas jusqu'à ce que sur la terre, il y ait des prières qui fassent écho à sa volonté, qui soient en accord avec sa volonté. Et donc, je suis très encouragé. Notre futur est merveilleux. Une mariée mûre, un guerrier, une guerrière entraînée, perfectionnée. Et alors il verra sa mariée et il dira, elle est prête, ça y est. Et alors en un instant, elle sera enlevée. Et de plus en plus, cela semble très simple. Nous pouvons lire Apocalypse 14, un corps et un corps avec les premiers fruits. Mais ce qui me semble de plus en plus clair, c'est que cela va vraiment se produire. Il y aura des chrétiens sur la terre qui deviennent mûrs. Et vers la fin des trois premières années et demie, nous saurons après 3 ans et demi que cet homme qui aura reconstitué l'ancien empire romain, nous saurons que c'est l'antéchrist, mais à ce moment-là, les premiers fruits seront enlevés. Et c'est quelque chose qui va vraiment se produire. Et il s'agit là maintenant, le commentaire que je vais faire n'est qu'un commentaire humain. Bien que je sois déjà d'un âge avancé, je vous admets que j'espère encore être en vie et être enlevé avec chacun de vous. Et donc la volonté du Seigneur sera faite et je crois qu'il est satisfait. Il est heureux lorsque de plus en plus nous avons cette prise de conscience. Nous voulons que le restant de nos jours contribue véritablement à l'accomplissement du dessein du cœur de Dieu. Parcourons maintenant le reste du plan. Et je vais terminer le message en avance. Et nous aurons amplement le temps de partager et de répondre et de parachever le message. Le point A. Les noces de l'agneau sont le résultat de l'accomplissement de l'économie néo-testamentaire de Dieu, laquelle vise à obtenir pour Christ une mariée, l'Église, au moyen de sa rédemption judiciaire et par son salut organique dans sa vie divine. Il s'agit donc là de l'accomplissement de l'économie néo-testamentaire de Dieu. Le point B, le recouvrement du Seigneur sert à la préparation de la mariée de Christ qui est composée de tous ses vainqueurs. Lorsque nous entendons ces mots, vainqueur, nous pensons, serais-je un vainqueur? Suis-je un vainqueur? Et en un sens, je ne sais pas si cela vous aide ou pas, mais c'est la vérité. Personne ne peut savoir avec assurance si il ou elle est un vainqueur. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés au bout de la course. C'est alors seulement que nous saurons que nous avons vaincu. Mais n'avez-vous pas une impression, un sentiment que lorsqu'un frère ou une sœur dans votre localité rejoint le Seigneur, nous avons peut-être un sentiment intérieur. Et nous nous disons sûrement, ils ont terminé la course, ils ont vaincu. Ce n'est pas présomptueux d'avoir une telle pensée. Bien sûr, seul le Seigneur est sur le trône. Il y a un frère, il y a 2 semaines, qui a rejoint le Seigneur, mais je le connaissais depuis longtemps. Il avait seulement la soixantaine. Un jour, il ne s'est tout simplement pas réveillé, mais il a terminé sa course. Il y avait cette impression. Et donc, n'essayez pas de vous examiner vous-même en vous demandant « Ai-je vaincu aujourd'hui ?» Quelque chose que vous trouverez peut-être de très encourageant et aussi de soulageant. Nous savons que dans Apocalypse 2 et 3, le Seigneur dit à celui qui vaincra. Donc il faut qu'il y ait quelque chose que nous vainquons. Mais dans Apocalypse 2 et 3, 21 et 22, le Seigneur dit « J'ai vaincu ». Et au chapitre 5, il nous est dit que l'agneau sur le trône a vaincu. Et donc, je suis tellement soulagé de prendre conscience que le seul vainqueur est Christ Jésus. Et la manière de produire les vainqueurs est en se reproduisant, est de se reproduire en nous. Et donc, maintenant, nous pouvons donc formuler cette prière spécifique. Oui, Seigneur, je veux être un vainqueur personnellement et collectivement. Et donc, Seigneur, reproduis-toi en moi, en tant que vainqueur, en moi et dans les autres. Et ne vous inquiétez pas, il répondra à cette prière. Ne pensez-vous pas que si vous priez, « Seigneur, reproduis-toi en moi, fais de moi un vainqueur pour l'accomplissement de ton dessein, pour la préparation de la mariée », pensez-vous qu'il dira « Non, je ne pense pas ». Prie au sujet d'autre chose. Non, le Seigneur attend ce genre de prière. Les points 1 et 2. Tous les vainqueurs seront la nouvelle Jérusalem, comme la mariée de Christ, pendant 1000 ans dans sa phase initiale et fraîche. Et donc il y a 2 étapes, 2 phases. Les vainqueurs qui sont maintenant, qui seront les co-rois dans le royaume du millénium, et il y aura tous les autres frères et sœurs qui auront atteint la maturité pendant les 1000 ans. Le point 2. Finalement, tous les croyants se joindront aux vainqueurs pour parachever et compléter la nouvelle Jérusalem en tant qu'épouse de Christ dans le nouveau ciel et la nouvelle terre pour l'éternité. C'est là que nous sommes conscients, nous savons, que nous disons « Seigneur, je ne veux pas attendre ». Le point C. Le jour de ses noces, Christ épousera sa mariée, les vainqueurs, qui ont mené la bataille contre l'ennemi de Dieu pendant des années. Après ses noces, le Seigneur viendra avec sa nouvelle mariée pour détruire l'Antéchrist qui, avec son armée, combattra directement notre Dieu. Et je le répète, cela va se passer. Et nous ne vivrons plus sur la terre alors que nous, comme nous avons vécu aujourd'hui. Nous serons dans une autre sphère. Et la parousie du Seigneur, c'est-à-dire sa présence, sa venue, sera progressive. Et nous serons avec lui. Et lorsque le moment sera venu de nous engager dans la guerre à Armageddon, il se manifestera et nous serons avec lui. Cela va vraiment se produire. Ce n'est pas simplement une prophétie intéressante de la Bible. N'avez-vous pas le même sentiment que moi? Je veux être là. Je ne veux pas être dans les ténèbres extérieures. Je veux être là avec le Seigneur à ce moment. Le point E. Après avoir anéanti le gouvernement humain, oh, quel jour merveilleux! Plus d'élections, plus de politique. Oh Seigneur Jésus, que la pierre vienne écraser le gouvernement humain. Alors Dieu aura nettoyé l'univers entier. Alors le Christ corporatif, Christ avec ses vainqueurs, deviendra une grande montagne qui remplira la terre entière, faisant de celle-ci le royaume de Dieu. Étudiez les versets dans Daniel. Il y a une pierre découpée sans le secours d'aucune main qui vient et qui vient frapper les 10 orteils. Donc comprenons bien qu'il s'agit d'une pierre corporative qui va non seulement s'occuper des armées de l'ennemi, mais aussi des gouvernements humains qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Dans l'image de Daniel, tous ces gouvernements sont des bêtes. Dans le gouvernement américain, il n'y a que des bêtes. Mais nous respectons, nous avons une relation adéquate avec ces gouvernements. Nous savons dans Romains que nous ne rebellons pas. Nous attendons simplement que tout soit anéanti, soit écrasé. Et alors cette pierre deviendra une montagne qui remplit toute la terre. Et alors, ceux qui faisaient partie de l'armée nuptiale seront les courroies. Et j'espère que, Seigneur, c'est OK avec toi. J'ai aucune idée de qui sera roi sur Barlow ou sur Amsterdam. Le Seigneur dira, je ne réponds pas à la curiosité, aux questions curieuses. Et je dirai, amen. OK, le dernier point. La maturité de la mariée exige que nous croissions dans la vie en passant de la transformation à la maturation. J'ai formulé ce point de cette manière-là, de même que le sujet général, afin de nous aider à voir que la transformation n'est pas le but, n'est pas la fin. C'est tout à fait compréhensible que certains saints prient pour cela, comprennent cela, que être transformé, cela revient à être arrivé au bout du processus. Mais il nous faut prendre conscience que ce n'est pas comme ça que nous arrivons au bout. Nous arrivons au bout lorsque nous avons atteint la maturité dans la vie. L'état de préparation de la mariée corporative dépend de la maturité. Et vous verrez que c'est sans aucun effort lorsque vous priez pour la maturité. Lorsque vous priez de telles prières, il y a beaucoup de noms qui jailliront dans votre cœur. Et alors vous inclurez dans vos prières tous les saints, toutes les églises, sur toute la terre. Seigneur, que cette journée soit une journée où on grandit dans la vie. On n'est pas concentré sur nous-mêmes, car c'est une question qui concerne le corps tout entier. Le Seigneur doit avoir un complément collectif. B. Dans le Nouveau Testament, l'adjectif « mûr » est utilisé pour désigner les croyants qui ont atteint la maturité et la perfection dans la vie de Dieu, ce qui indique que nous devons croître et mûrir jusqu'à la perfection dans la vie divine. Comme nous lisons, il nous est dit « tu seras parfait, comme ton Père céleste est parfait ». » nous réalisons, Seigneur, c'est impossible pour moi. Et il y a trois étapes ici. D'abord, nous réalisons que c'est un commandement. Alors nous disons Amen. Ensuite, nous disons Seigneur, je ne peux pas. Et ensuite, finalement, nous disons Seigneur, toi tu peux. Et le Seigneur dira oui, laisse-moi le faire. Mais si vous lisez la note de bas de page, être parfait comme notre Père Céleste est parfait, d'après le contexte, il s'agit d'être perfectionné dans l'amour. Et c'est particulièrement ce que le Seigneur veut perfectionner en chacun de nous. Plus nous sommes aimés, 1 Jean 4,19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons lui, nous aimons les frères et sœurs, nous aimons tous les êtres humains. Et finalement, nous aimerons même ceux qui nous persécutent. Le Seigneur sur la croix n'a pas prié comme David dans sa mixture, dans les psaumes, a prié pour que ses ennemis soient anéantis sous ses pieds. Non, le Seigneur a prié, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme Étienne a prié. Étienne était la reproduction de Christ. Il a dit lui aussi, pardonne-leur. Ils sont en train de me lapider, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'agit là donc d'un signe de maturité. Lorsque quelqu'un vous lapide, si quelqu'un est en train de vous lapider ou figurer et que vous répondez, que vous dites « Seigneur, donne-moi de quoi me défendre », cela indique que vous n'êtes pas encore arrivé à maturité. Le point C. Nous devons continuer à croître jusqu'à ce que nous soyons mûrs dans la vie divine pour devenir un homme mûr, parvenant à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Le point D. Nous devons apprendre de l'apôtre Paul à poursuivre la croissance et la maturité dans la vie de Christ. Dans ces versets où Paul dit « Oublions les choses qui sont en arrière » et « Tendons, saisissons ce qui est en avant, poursuivons », ces versets sont vraiment très inspirants. Mais si nous essayons de le faire, de les accomplir, en fait, nous n'en sommes pas capables. Mais comment se fait-il que Paul en était capable? Le Seigneur approvisionnait Paul. Et Paul poursuivait simplement. C'est quelque chose d'actif, une attitude active que de poursuivre. J'étais en Russie à un certain moment. Nous avions une réunion avec les frères responsables et à l'extérieur du bâtiment où nous nous trouvions, il y avait une marche de l'armée avec leurs armes, leurs fusils. Et ils sont venus et nous ont interrogés. Un par un, moi y compris. Et ils étaient très actifs, ils poursuivaient quelqu'un. Et donc j'ai réalisé ce mot, cette attitude que de poursuivre, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a certaines personnes qui, par nature, sont très agressifs. Et on pourrait croire que ils ont un avantage, parce que dans tout ce qu'ils font, ils sont très agressifs, très, très actifs. Certains sont peut-être un peu plus passifs, un peu plus... Quoi qu'il en soit, le Seigneur ne va pas donner l'avantage à quelqu'un qui est naturellement actif. Le Seigneur a un moyen de rendre la personne plus passive, très active. Donc ne vous inquiétez pas de ce que vous êtes par nature. Laissez le Seigneur vous renouveler Et vous poursuivrez alors simplement jour après jour, comme le premier cantique que nous avons chanté. L'amour du Seigneur est plus doux aujourd'hui qu'à aucun autre moment. Et il en sera toujours ainsi. Le point E. Voilà encore une fois la définition. Être transformé, c'est être changé métaboliquement dans notre vie naturelle. Tandis qu'être mûr, c'est être rempli de la vie divine qui nous change. Soulignons simplement ce point. Changer dans notre vie naturelle, changer métaboliquement. Il s'agit là de la troisième étape de l'expérience de la vie. Le Seigneur vous a peut-être doté d'une grande intelligence ou vous a peut-être donné une grande capacité dans différentes choses. Mais nous devons être prêts à ce que le Seigneur règle le problème que pose non seulement notre moi, notre chair, etc., mais aussi notre capacité naturelle, quelle qu'elle soit. Je n'ai jamais eu de contact personnel avec le frère Watchmani, mais il est très probable qu'il ait été un génie. Il avait une mémoire photographique. Est-ce que je vous ai déjà raconté cette histoire? Il y a quelqu'un qui a épousé sa sœur. Elle nous a dit un jour, et il lisait simplement comme ça, en tournant une page l'un après l'autre, et ils lui ont fait passer un petit test pour voir à quel point il était capable. Et donc, le Seigneur l'avait simplement doté d'une telle capacité. Alors qu'il n'était âgé que de 30 ans, il avait parcouru l'ensemble des ouvrages de la chrétienté, de la théologie. Parce que le Seigneur avait vraiment traité sa capacité naturelle. Et il en est de même avec notre frère Lee. Et je suis sûr que le frère Albert Lim en sait bien plus. Je suis très certain, je suis sûr que le frère Lee avait la capacité d'être quelqu'un qui pouvait diriger le pays, l'ensemble du pays, qui pouvait diriger la Chine. Mais le Seigneur a utilisé de telles personnes pour son ministère. Mais il a traité leur capacité naturelle. Et ne vous inquiétez pas de votre cas. Le Seigneur va vous amener à traverser les expériences dont vous avez besoin pour vous amener à maturité. Le Seigneur touchera tout élément naturel en vous, et en particulier ce qui concerne votre capacité. Il avait besoin de quelqu'un comme Paul, qui était doté d'une intelligence fantastique. Mais il n'avait pas besoin d'une personne si intelligente et remplie de fierté et d'arrogance. Il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit de la mort et de la résurrection. Dans notre vie quotidienne avec le Seigneur, son but est de nous amener dans la résurrection. Je ne suis pas un expert et je ne dirai rien, mais certains d'entre vous, il y en a certains que je n'ai pas vus depuis quelques années, mais je peux dire, il y a bien plus de vie de résurrection en vous. Tout ce que vous avez traversé n'a pas été vain. Vous êtes passé par la mort et maintenant la résurrection règne en vous. Et ensuite, le Seigneur pourra vraiment nous libérer. Maintenant, le dernier point. Un croyant mûr connaît et prends soin du corps de Christ. Étant conscient du corps et centré sur le corps. Ce n'est pas quelque chose que l'on... Être conscient du corps, être centré sur le corps, ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer, que l'on peut imiter. Lors de la dernière formation semi-annuelle, la formation était en cours et j'ai dû subir cette opération cardiaque. Et les frères ont réalisé qu'il s'agissait de quelque chose qui concernait le corps, d'une situation qui concernait tout le corps. Et donc les frères ont informé les saints de ce qui se passait, de ce qui m'arrivait. Car je ne suis qu'un membre du corps qui est approvisionné par les prières et la vie du corps. C'est le corps qui prend soin du corps. Dans près de 30 secondes, je vais terminer ma partie, mais je suis heureux d'une façon indescriptible d'être ici avec vous. Quelle conférence merveilleuse! N'essayez pas de devenir par vous-même conscient du corps, centré sur le corps. Vous pouvez prier un petit peu pour cela, mais tout simplement, alors que vous grandirez dans la vie, vous réaliserez « Je ne peux pas vivre sans le Seigneur, je ne peux pas vivre sans le corps. Je suis pour le Seigneur, je suis pour le corps, je suis dans le Seigneur, je suis dans le corps. Je suis si heureux de n'être qu'un membre du corps. » Et donc, chers membres, puisse le Seigneur vous bénir, vous et votre famille, de toutes les manières possibles, à tout moment, tous les jours, jusqu'à ce que vous rencontrez le Seigneur. Le Dieu Trinitaire va vous bénir, bénir vos églises, bénir l'œuvre en Europe et au Royaume-Uni plus que jamais. Les cieux sont ouverts et les bénédictions sont en train d'être déversées. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Priez avec quelqu'un assis à côté de vous et les frères vont nous dire quoi faire.